Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à tous sur les ondes du Canal M qui vous propose son kiosque magazine du lundi 15 décembre que l'on consacre à la culture et à la société. Mmh. En régie ce matin, un homme seul, Rémi Hermoso, qui va nous guider pendant l'heure qui s'en vient. Mais dans le studio, ça grouille de monde, n'est-ce pas?
Ah ben
ça?
Oui, nous avons de la visite. C'est le temps des fêtes. La parenté est arrivée.
Oui.
Alors, on a pour la deuxième fois...
Oui, pour le plaisir, à nous, notre plaisir, le plaisir des auditeurs aussi.
La deuxième fois, on a Franceline. Oui. Franceline, vous allez la reconnaître à son léger accent.
Oui, bonjour.
Oui. Où a-t-elle pris cet accent?
Ben où avez-vous pris cet accent?
Ben comme mon accent l'indique, je viens de France.
Ah, c'est un bel endroit, je pense.
Oui, mais ça fait 25 ans que je suis au Québec.
Ah ben là, bon, alors là, vous êtes habitué.
Oui,
hein?
Oui, c'est ça. Vos hivers ne m'ont pas fait peur.
Vous êtes tout à fait des nôtres.
Ouais. Et puis, on a une toute nouvelle. Oui.
Bonjour.
Oui, qui s'appelle...
Sophie. Enchantée.
Bienvenue, Sophie.
Merci.
Alors, éventuellement, tu viendras parler au micro un jour, peut-être, à la radio?
Je l'espère.
Excellent.
C'est bien d'avoir des rêves.
Hein? Alors, nous allons parler d'articles ce matin, comme à l'habitude, des articles tellement intéressant.
Oui, ça nous a intéressé. J'espère que ça va vous intéresser aussi.
Oui, alors vous allez parler de quoi?
Moi, je vais vous parler d'itinérance, ça c'est moins gai, là. Mais je vais vous parler de la mode, un homme et ses chaussettes, ça c'est passionnant. Ensuite, je vais vous parler de livres, une histoire du monde sans sortir de chez soi. C'est assez spécial.
Oh, et vous, Franceline?
Eh bien moi, Noël est proche, hein, je ne vous l'apprends pas. Alors pour l'occasion, j'ai trouvé dans le magazine Bel Âge deux articles... Un qui s'intitule « Fou de Noël » et l'autre « Fêtez Noël en grand, dans petit ».
Ah bon, oui, eh ben, c'est intéressant. Et puis moi, ça va être « Décaissement à la retraite ». C'est dans la revue Bel Âge par Sophie Stival. Puis après, nous allons aller dans cette revue annuelle maintenant, Urbania, et nous allons parler d'anonymat.
Anonymat, tiens, bien. C'est... Et on y va d'un premier texte que je puis aller lire dans le Reader's Digest, du mois de décembre. Le titre, c'est « Vaincre l'itinérance ». Le texte est signé par Hélène de Billy. Il s'agit d'une nouvelle tendance pour aider les sans-abri, le projet « Chez soi ». Le propagandiste de cette approche est un nommé Éric Latimer. La journaliste commence par parler de la situation de Richard, qui pour la première fois de sa vie adulte a pu conserver la même adresse 3 années de suite. Devenu sans-abri à l'âge de 14 ans pour échapper à un climat familial délétère et à la succession des foyers d'accueil, ce Montréalais a peiné de malchance en malchance entre révolte, pauvreté et toxicomanie. « Condamné au refuge, j'étais à bout », a déclaré l'homme dans la cinquantaine durant la conférence présentant les résultats du projet « Chez soi ». En 3 ans, j'ai recouvré ma dignité. En entendant ce témoignage, Éric Latimer a eu du mal à retenir ses larmes. Économiste spécialisé dans l'analyse des programmes de santé mentale, chercheur à l'Institut Douglas et professeur au département de psychiatrie de l'Université McGill, M. Latimer est un ardent défenseur de l'approche « housing first », logement d'abord, un modèle d'intervention qui propose d'offrir aux sans-abri un accès immédiat et sans condition à un logement, accompagné de soutien adéquat. Depuis 5 ans, il est chercheur principal du volet montréalais du projet Chez soi, une étude financée par la Commission de la santé mentale du Canada, destinée à vérifier l'efficacité de cette méthode qui accorde la priorité au logement. Véritable innovation sociale, l'expérience à laquelle a participé Richard a été tentée simultanément dans 4 autres villes canadiennes, et l'approche logement d'abord sur laquelle elle se base a aussi inspiré plusieurs projets semblables à travers le monde. Mais alors que le projet Chez soi s'achevait en mars 2013, certaines provinces ont reconduit leur programme. Le gouvernement du Québec, lui, hésite à emboîter le pas. Au cœur du débat, l'agacement de Québec face à l'ingérence du gouvernement fédéral dans un secteur, la santé de compétences provinciales, et aussi la crainte de certains organismes communautaires d'avoir à partager des ressources déjà rares avec d'autres intervenants. Malgré ces résistances, Éric Latimer est optimiste. Ce n'est qu'une question de temps. Il me semble probable que des fonds seront alloués prochainement à des programmes de type Housing First au Québec. Question que la journaliste de Billy pose à M. Latimer. Vous avez, Dans les conclusions de votre rapport de recherche, vous affirmez que le modèle logement d'abord constitue un moyen efficace pour en finir avec l'itinérance. Pourquoi? Parce que nous avons été en mesure d'établir que dans les derniers 6 mois du programme, 60 % de nos participants ont besoin élevé, c'est-à-dire avec de graves problèmes de santé mentale, et 72 % de nos participants à besoins modérés étaient toujours logés, un taux 2 fois plus élevé que pour le groupe témoin qui suivait le parcours habituel de réinsertion sociale. De plus, les itinérants ont signalé une amélioration de leur qualité de vie. Ils ont trouvé dans l'approche « logement d'abord » la motivation pour repartir du bon pied. Combien coûtent de telles mesures? On peut mettre en place de tels programmes sans qu'il en coûte vraiment plus cher aux contribuables. Voyez plutôt, un sans-abri à besoin élevé. Un sans-abri à besoin élevé coûte en moyenne 64 655 $ par année à la société. Quand on applique le programme chez soi, la facture grimpe à 67 652 $, soit à peine 3 000 de plus selon le rapport final du site de Montréal. Pourquoi si peu, étant donné l'argent neuf injecté pour le logement, en raison, par exemple, des économies réalisées en frais d'hospitalisation, près de 14 000 $ de moins par personne pour les urgences, les ambulances et les hospitalisations? Question. Vous souhaitez fermer les refuges? Question. Réponse. Absolument. Les refuges sont une institution du 19e siècle. Dans certains endroits, il y a 20 lits superposés, entassés dans une même pièce. Si jamais une épidémie se déclarait, ce serait catastrophique. Qui plus est, on met les gens dehors à 7 heures du matin, parfois à moins 30 degrés centigrades, c'est abominable. La majorité des itinérants ne veulent pas de ce genre d'hébergement. En principe, l'accès au logement social existe pour eux, mais il est conditionné par des critères qui tendent à exclure les gens avec des problèmes psychiques importants. Qui sont les itinérants que l'on croise quotidiennement à Montréal et combien sont-ils? On estime qu'il y a 13 000 personnes sans domicile fixe à Montréal, mais ces données sont approximatives parce que le dernier dénombrement remonte à 1997. Comme dans le reste de la société, on trouve chez les itinérants des individus de tout âge et de toute provenance. Les circonstances qui mènent à l'itinérance sont cependant assez semblables. Une perte d'emploi, conjuguée à une rupture, des problèmes de santé mentale, la pauvreté et l'absence de loyer à prix abordable. Il y a aussi ceux qui deviennent sans-abri après une série de déconvenues. Alors, c'est un texte intéressant. Il y a des expériences qui se font ailleurs dans le monde, et en particulier en Alberta. C'était l'endroit où ça a eu plus de succès parce que les gens d'affaires se sont impliqués et ont forcé le gouvernement à dire « l'itinérance, c'est terminé, on prend les moyens pour l'enrayer ». Et ce programme chez soi d'abord et se répand dans le monde. On en a partout en Angleterre, aux États-Unis, et ça, c'est là que ça a commencé surtout, en France, un peu partout. Alors, c'est un texte qui pourrait intéresser certaines personnes. « Vaincre l'itinérance » est publié dans le Reader's Digest du mois de décembre.
Êtes-vous un fou de Noël, comme celui que nous décrit Marie-Josée Lacroix dans la revue Bel Âge de décembre 2014?
C'est une question. Qu'on nous pose.
Oh oui, c'est une passion. On entre dans un autre monde. Voilà, Denis Barbe ne pourrait mieux définir le loisir auquel il s'adonne depuis une vingtaine d'années. Collectionner des villages de Noël. Façon raccourcie de dire qu'il collectionne des maisons de porcelaine, des personnages, des figurines et des accessoires pour composer des villages de Noël. Au début, mon épouse était un peu perplexe, puis elle a embarqué. Depuis, on est tous les deux là-dedans, à plein régime. En février dernier, ils ont même fondé leur propre club de collectionneurs, les Elfes du village à Blainville. Les membres partagent leurs connaissances et leurs trouvailles et participent à des ateliers de fabrication de cours d'eau, d'arbres, de montagnes, pour paysager les villages. Le but est d'avoir du plaisir. Du plaisir à réaliser ces reproductions à échelle miniature de villages avec maisons, rues, lampadaires, personnages, églises, casernes de pompiers, etc. Certains collectionneurs se spécialisent dans un type de village. Pour chacun, on utilise entre 150 et 200 maisons, précise M. Barbe. J'en monte un, deux, même parfois trois dans la maison et j'alterne. Mais le même village n'est jamais identique puisque je possède 1500 maisons et une panoplie d'accessoires. Le collectionneur admet que ce loisir peut devenir dispendieux. C'est sans doute pourquoi on compte moins de mordus qu'il y a 30 ans. Il faut y aller progressivement et n'acheter que 5 ou 6 pièces par année, suggère-t-il. Et même si lui ne le fait pas, on peut procéder à des échanges comme pour n'importe quel type de collection. Ce loisir signifie aussi voyager, rencontrer d'autres passionnés et imaginer les nouveaux villages. On oublie ainsi tous nos problèmes, assure Denis Barbe. Notre esprit est toujours en plein travail. Et je crois que ça nous permet peut-être de vieillir moins vite en restant actifs. Les journées n'ont pas assez d'heures pour nous. Combien d'heures encore avant Noël ? Et maintenant, fêtez Noël en grand dans Petit. Texte écrit par Micheline Dubreuil, toujours dans le magazine Bel Âge de décembre 2014. Vous aviez l'habitude de recevoir la famille à Noël. Désormais, installé dans un espace plus petit, vous vous demandez si cette année vous serez en mesure de poursuivre la tradition. Oui, c'est possible de fêter en grand dans petit. L'ambiance, voilà sur quoi il faut miser. C'est la maison entière qui doit prendre un air de fête, et on y arrive en multipliant les touches un peu partout. D'abord, on élimine le gros sapin, naturel ou artificiel, il encombrerait l'espace. On le remplace par de petits éléments festifs dans chaque pièce. Les idées ne manquent pas. Vous prenez un vase à fleurs ou un bol et vous le remplissez de boules de Noël. Autres idées, un bouquet de branches auquel on a fixé soit de petites ampoules, soit des cartes de vœux, soit de petites boules de Noël. Ou encore, un vase rempli d'ampoules à DEL. L'éclairage à DEL, D-E-L, quelle invention ! Les guirlandes lumineuses à DEL, qui fonctionnent à pile, sont d'excellents outils pour créer de l'ambiance. On peut les installer n'importe où, puisqu'elles sont sans fil. Et comme leurs ampoules ne chauffent pas, elles sont des plus sécuritaires. Mêlées à du sapinage, ces guirlandes s'utilisent à mille et un endroits, sur l'appui d'une fenêtre ou sur un manteau de cheminée, une commode, dans une entrée, ou encore autour d'une couronne suspendue à une fenêtre. Et en utilisant ainsi du sapinage, en plusieurs endroits, on embaume la maison, même sans véritable sapin. Autre suggestion, puisque pour créer de l'ambiance, rien ne vaut les bougies, ne lésinez surtout pas sur leur nombre. Oubliez vos préjugés et jetez un coup d'œil sur les bougies à DEL. Elles sont pratiques. Leur avantage, elles peuvent être laissées sans surveillance. En fait, ce sont des lampes, vous les allumez, puis vous les oubliez. Installez-en dans tous les coins de la maison. Il ne vous reste qu'à faire jouer des airs de Noël pour que la magie opère. À Noël, c'est aussi autour de la table que ça se passe. Mettez-y des accessoires de fête, serviettes, rondes serviettes, marque-place. À éviter les centres de table en hauteur qui empêchent de converser avec son vis-à-vis. Choisissez un thème, l'or ou l'argent par exemple. Et n'hésitez pas à sortir votre plus belle nappe. Au moment de dresser la table, vous pouvez mettre du sapinage entre les assiettes et les verres. Encore, me direz-vous, n'oubliez pas que vous n'avez pas de sapin, et puis ça sent tellement bon. Vous pouvez mettre aussi sur la table un bouquet de branches de cornouiller, d'un rouge éclatant. Ajoutez-y quelques bougies à DEL, pas de risque de se brûler, ni de voir la cire se répandre sur la nappe. L'effet sera plus joli si vous les choisissez de différentes hauteurs et si vous les regroupez en nombre impair. En fait, toutes les fantaisies sont permises. Gardez simplement en tête que les décorations ne doivent pas gêner le service. Voilà, avec toutes ces suggestions décrites par Michel Dubreuil pour créer une belle ambiance, ce moment de réception pourra être très festif. Alors, joyeux Noël !
C'est dans le bel âge, hein ?
C'est dans le bel âge.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son âme. Rêve de voir son visage de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la veilleuse. Gentleman cambrioleur a gagné les cœurs. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, porter des fleurs. Oh, gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur.
C'était Garou qui chantait. Dans son édition de janvier 2015, l'actualité consacre plusieurs pages aux tendances de l'année qui est à nos portes. Voici deux sujets abordés dans cet exercice de prospective. D'abord, une tendance dont l'existence n'apparaît pas au premier coup d'œil, les chaussettes pour hommes. C'est Marc-André Sabourin qui signe ce texte intitulé « Un homme et ses chaussettes ». Moi, j'ajouterais une autre des belles histoires de la mode. Quelles chaussettes portez-vous aujourd'hui? Les miennes sont bleues, avec de gros pois rouges et blancs. Et ma commode en renferme de bien plus éclatées, rayées arc-en-ciel, fléchées, rouges, Noël, fleuries. Sans oublier mes préférés, des bleus criards ornés de motifs de cocktail que je réserve aux 5 à 7. Ces chaussettes déjantées, je les enfile à la maison comme au travail, que je sois vêtu d'un jean avec des tennis ou d'un complet avec des chaussures habillées. Vous me trouvez fou? Je ne suis pourtant pas le seul. Selon une étude publiée l'automne dernier par la maison de recherche NPD Group, il ne s'agit pas du parti politique, là, ce qui n'était autrefois qu'un simple vêtement destiné à protéger les pieds et à le tenir au chaud, s'est transformé en un accessoire de mode qui a généré des revenus de 6,2 milliards de dollars de septembre 2013 au mois d'août 2014. Et fait rare dans le secteur du vêtement, les ventes de chaussettes pour hommes dépassent celles de chaussettes pour femmes. Cette tendance n'a pas échappé à l'industrie. Des sites web spécialisés ont vu le jour, des chaussettes soigneusement pliées sont placées en évidence dans les boutiques de mode pour hommes, et des options colorées côtoient désormais noir et blanc dans les grandes surfaces. En septembre dernier, le fabricant et détaillant de vêtements québécois Tristan s'est lui aussi lancé à l'assaut du pied masculin avec une série de chaussettes qui contrastaient avec ses collections précédentes. En moins de 2 mois, des modèles étaient en rupture de stock. Nous n'étions pourtant pas certains que cela répondrait à un besoin, se rappelle la directrice du marketing de l'entreprise, Annick Blackburn. Elle observe que la clientèle masculine délaisse la cravate pour la chaussette. Et cette dernière en dit beaucoup sur qui on est. Un homme qui l'a choisi avec soin démontre son souci du détail. Attends, je vérifie. Elles sont rayées blanc et bleu, mais avec deux teintes de bleu. Jean-Michel Naas, 29 ans, ne s'attendait pas à ce que je l'appelle entre deux réunions à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, où il travaille comme cadre, pour discuter de ses chaussettes. Il n'en a pas moins long à dire sur le sujet. Les femmes ont plein d'accessoires pour se distinguer. Nous, on a la chaussette. Ça permet d'ajouter un peu de style à son look de bureau, chemise blanche et pantalon gris, tout en restant discret. Ses propos rappellent ceux de l'auteur américain Joshua Bierman, qui déclarait récemment que « les chaussettes sont de la lingerie pour hommes. Vous seuls savez ce qui se trouve sous votre pantalon, mais les observateurs attentifs peuvent entrevoir ce que vous cachez. Si vous ignorez sur quel pied danser avec ces nouvelles conventions, vous pouvez toujours vous référer au guide de neuf pages, lancé par Tristan, pour aider les hommes à trouver chaussettes à leurs pieds. Vous constaterez qu'au moins une règle demeure. Au lit, les chaussettes sont interdites même si elles sont funky. » Le texte, il y a un PS au texte. On ajoute ce qu'on pourrait lire, d'après l'auteur, en l'an 2025, dans l'actualité. Le look Superman. Ces caleçons sont si beaux, ce serait une honte de les cacher, explique Guy Poitras en montrant les siens qu'il porte par-dessus son pantalon. Partout, ce look inspiré du costume de Superman fait fureur. Les chaussettes funky, c'est amusant. Mais c'est difficile de se sentir héroïque avec des chaussettes au motif de pingouin. Alors, ça serait en 2025. Alors, où s'en va-t-on, Serge? Je ne sais pas. Bon, autre sujet, autre texte. Une fois qu'il souligne une tendance qui semble s'installer, c'est le mariage entre la musique populaire et la musique classique. « Soignez votre compagnie », c'est le titre que Tristan Lavoie donne à son texte. Qu'ont en commun Marie-May, Simple Plan et les Trois Accords, ils ont tous partagé la scène avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Et en février, l'OSM remet ça, en s'associant le temps de trois concerts avec la sensation pop britannique Mika. Ce rendez-vous s'ajoute à la longue liste d'expérimentations proposées par l'orchestre et s'inscrit dans une tendance générale observée dans le milieu des arts, le croisement des genres. N'en déplaise aux critiques du quotidien La Presse, Claude Gingras, qui pourfend chaque fois qu'il en a l'occasion ses gestes d'ouverture à d'autres genres musicaux, l'USM a su remplir aussi un de ses mandats. Ses rencontres pop ne représente que 5 ou 6 concerts sur la centaine que donne annuellement l'OSM, précise Madeleine Caro, chef de la direction de l'orchestre. Notre mission en matière d'interprétation du répertoire n'est pas en péril, mais nous considérons que l'OSM, qui est subventionné, appartient à tous les Québécois. Il est alors normal de proposer au grand public des rendez-vous qui l'interpellent. Alors, ça, c'est une autre tendance. Soignez votre compagnie, c'est le titre du texte. C'est le mélange pop et orchestre symphonique. C'est dans l'actualité du mois de janvier.
Urbania consacré à l'anonymat. C'est épais comme un catalogue Sears, finalement. OK. Alors, en 1775, alors considérez, c'est pour l'anonymat, hein, qu'est-ce que j'ai dit, moi?
L'anonymat.
Ouais, c'est ça, oui. Sur l'anonymat. Alors, l'année de naissance d'Eugène François Vidocq, considéré comme le premier agent secret au monde.
Oui.
Oui, il devait être anonyme. L'ancien criminel français a aussi dirigé la première unité undercover à Paris en 1811. On suppose logiquement que son nom de code devait être 001. Attendez, c'était le premier. Avez-vous une brève, vous?
Non, mais Franceline en a.
Ah, oui, j'en ai une. Le Canada, pays de douleur. Les Canadiens seraient les plus grands consommateurs d'opiacés sur ordonnance au monde, à égalité avec les États-Unis. L'équipe de Tara Gomez, épidémiologiste associée à l'Université de Toronto, a recensé la distribution de comprimés ou de timbres médicamenteux contenant de fortes doses d'opiacés, substances dérivées de l'opium utilisées pour soulager la douleur. Dans les pharmacies canadiennes de 2006 à 2011, au cours de cette période, le nombre d'unités distribuées pour 1000 habitants est passé de 781 à 961. L'Ontario et l'Alberta arrivent en tête avec respectivement 1382 et 1133 unités distribuées pour 1000 habitants en 2011. Le Québec se situe à l'autre bout du spectre avec seulement 368 unités.
Je suis malade.
Dis donc. Alors, 20 $, vous savez qu'on est toujours dans la revue ironique Urbania. Et pourtant, non moins vrai. C'est 20 $, le prix à payer pour poser une question à un voyant anonyme sur le site web Voyance Québec. Ou 4,89 sous la minute via la ligne 1-976. Eh oui, ça existe encore.
Ça existe.
Mm-hmm. Et 150 milliards de dollars. C'est pas rien. Hein? Ce sont les profits annuels générés par les esclaves modernes du travail forcé selon l'Organisation internationale du travail. C'est une main-d'œuvre anonyme, sans voix et sans défense. Et les unions, comme disait l'autre, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce qu'on a aussi? Oh mon Dieu, on a 100 millions d'exemplaires vendus d'Alice au pays des merveilles. Seulement 100 millions. Ce roman, écrit sous le pseudo Lewis Carroll, de son vrai nom, Charles Ludwig Dodgson.
Ah, il a bien fait de changer.
Alors, nous être appelé Ludwig, nous aussi, on aurait changé de nom. Avez-vous une brève, Francine?
Oui, j'en ai une,
oui.
Qui s'intitule « Tout près de chez vous ».
Ah oui?
L'esprit communautaire à la côte en Suisse, où un service de prêt collectif a vu le jour. Par des autocollants qu'on appose sur sa boîte aux lettres, on indique quels objets sont accessibles en tout temps aux voisins qui n'ont alors qu'à frapper à la porte pour les emprunter. Offertes gratuitement à tous les résidents qui les commandent en ligne, les étiquettes du programme Pumpy Pump portent des illustrations de tondeuses à gazon, de machines à coudre et d'accès Internet, entre autres.
Pompipom.
Pompipom.
Hein, c'est l'esprit communautaire suisse. Ouais. Serge, un autre?
Ben, écoutez, c'est 300. Le chiffre 300, c'est le nombre de fois par jour en moyenne où un Britannique passera devant une caméra de surveillance privée ou publique dans une journée.
Oh!
Il y en a des caméras.
Ils sont équipés.
C'est le pays qui en compte le plus au monde, soit 4 200 000. À ce rythme-là, ce sont bientôt les Britanniques qui devront surveiller les caméras.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, on se dirige vers la retraite, lentement mais sûrement. Et dans la revue Bel Âge, eh bien, on se spécialise là-dedans, dans la section Vaudrois. Et Sophie Stival nous dit ceci. Maximisez vos épargnes, décaissement à la retraite. On accumule toute notre vie pour la retraite. Le moment venu, plusieurs craignent de manquer d'argent. Les raisons de s'inquiéter sont nombreuses, une espérance de vie allongée, des taux d'intérêt historiquement bas, la maladie. Oh. En élaborant une stratégie de décaissement adaptée à sa situation personnelle, on gagnera une tranquillité d'esprit. Alors, ce sont des petits conseils qu'on nous donne dans cet article, mais libre à vous d'y aller un peu plus loin dans vos recherches pour vous sécuriser, parce que chacun est une différence. Alors, le concept de retraite a beaucoup évolué depuis 25 ans. Le célèbre slogan « Liberté 55 » est aujourd'hui dépassé. Eh oui. En 2014, il est plutôt question de repousser la retraite, d'avoir une discipline budgétaire. Autrefois, on avait le souci de léguer un héritage à ses enfants. De nos jours, plusieurs ne peuvent se le permettre, affirme Denis Preston, planificateur financier chargé de cours à HEC Montréal. Pour maintenir notre niveau de vie à la retraite, il faut épargner pendant que nous travaillons. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est ce que les économistes appellent la contrainte budgétaire à vie. Et durant cette période d'accumulation, on économise une partie de son salaire dans un REER ou un régime complémentaire de retraite, et certains, particulièrement chanceux, ont accès à un régime à prestations déterminées. D'autres parviennent à mettre des sous dans un CDI et des comptes non enregistrés. Planifier sa retraite signifie aussi faire le calcul du revenu annuel nécessaire au maintien de son niveau de vie une fois pensionné. La plupart des experts s'entendent sur un revenu de remplacement de 70 % du salaire annuel brut moyen des trois dernières années, et cette règle n'est toutefois qu'approximative. Le niveau de salaire, les projets de retraite et l'épargne accumulée auront aussi une incidence. Une dizaine d'années avant de se retirer du marché du travail, il est recommandé de préciser ce montant, de faire des projections et d'établir un plan de retraite en consultant un spécialiste, remarque M. Preston. Une fois à la retraite, on devra piger dans ses réserves pour payer les dépenses courantes. Les régimes publics tels que le régime des rentes du Québec et la pension de la sécurité de la vieillesse ne suffiront pas généralement. Il faudra aussi faire appel à son épargne personnelle ou à son régime complémentaire de retraite. Et quel compte doit-on alors prioriser? Selon Martin Duprat, planificateur financier et fiscaliste, une personne de 65 ans qui détient un REER ou un fonds de pension, un CELI et de l'argent dans des comptes non enregistrés devrait d'abord décaisser ses épargnes non enregistrées. Puisqu'on paie chaque année des impôts sur les rendements liés à ces placements hors du REER et du CELI, il est souvent préférable de retirer ces sommes en premier, affirme celui qui est également formateur à l'Institut québécois de placement financier. Ensuite, on prend encaisser ses REER ou son CELI, en tenant compte de ses autres sources de revenus. Un retraité qui n'a pas de régime de retraite pourrait transformer son REER en fonds enregistré de revenus de retraite, FER, avant l'âge limite de 71 ans, et s'en servir pour avoir des revenus. Et de plus, chaque année, on doit retirer du FER une somme imposable. Et plus on tarde, plus les décaissements seront importants, tout comme la charge fiscale. Chaque situation est différente. C'est du cas par cas, rappelle M. Duprat. Alors, nous sommes tous des cas, pas? La RRQ, de nouvelles règles. Pour ajouter à la complexité de la tâche, certaines règles du jeu ont changé. Longtemps, les experts ont recommandé aux épargnants de réclamer leur rente de la Régie des rentes du Québec, RRQ, à 60 ans plutôt qu'à 65 ans. Aujourd'hui, la RRQ pénalise davantage ceux qui devancent leur versement avant 65 ans. Ceux qui repoussent leur demande entre 65 et 70 ans seront au contraire récompensés en recevant des prestations plus élevées. Que faire alors? Bien, tout dépend de son état de santé, de son style de vie, seul ou en couple, et aussi de sa situation financière et fiscale. La réponse n'est pas toujours intuitive. Il faut demander l'aide d'un expert. Et dans bien des cas, la bonne décision sera de reporter sa demande de rente. On doit faire les calculs, estime M. Duprat. Notons que la récente décision de réduire la rente ne touche pas les personnes nées avant le 1er janvier 1954 et cette modification prendra effet graduellement jusqu'en 2016. Il faut donc vérifier son relevé de participation. Et autre nouveauté, depuis le 1er janvier 2014, les personnes de 60 ans et plus qui ont cotisé au moins une année à la RRQ auront le droit de demander leur rente de retraite, même si elles travaillent. Alors, on parle de dépenses constantes indexées. Et puis le REER, ce n'est pas une panacée. Bref, il faut protéger la possibilité de longévité avec une rente viagère. Alors, ce sont des suggestions que l'on vous donne dans la revue. Il faut sécuriser aussi les décaissements. Alors, dans la revue Bel Âge, Sophie Estival nous donnait quelques suggestions.
Et si on veut changer un peu les idées, là, on peut lire un peu, faire de la lecture. Et je vous parle de deux livres dont les propos sont intéressants si l'on en croit les critiques publiées dans l'actualité. Oui. D'abord, Une histoire du monde sans sortir de chez soi, commenté par Jacques Godbout dans sa chronique qu'il intitule « Les origines du confort moderne ». C'est dans l'actualité du 1er décembre. Il fallait, pour raconter habilement la lente acquisition du bien-être domestique, qu'un auteur né en Amérique emménageât, dans un ancien presbytère, solide, laid et respectable, au cœur de l'Angleterre. Ce monument anglican construit en 1851 devenait alors le point d'ancrage d'un livre étonnant, Une histoire du monde sans sortir de chez soi. Bill Bryson, né en Iowa, va donc utiliser chacune des pièces du presbytère de M. Marsham pour faire le récit de l'évolution matérielle de l'humanité. Ce n'est pas tant la philosophie qui l'intéresse que le tout à l'égout, l'architecture, le puritanisme victorien, l'invention du mobilier ou la découverte de l'hygiène corporelle. Au 18e siècle, les Lumières avaient permis de chasser l'obscurantisme et d'ouvrir les esprits. Au 19e siècle, chercheurs et scientifiques se révélaient plus pragmatiques. C'était, dans la campagne anglaise, l'âge d'or du clergé rural. En fait, les pasteurs anglais vivaient plutôt bien de la dîme et de rente foncière, et ces jeunes gens instruits s'intéressaient parfois plus à l'archéologie ou aux papillons qu'aux âmes de leurs ouailles. L'un d'eux, Edmund Cartwright, inventait le métier à tisser mécanique à l'origine de la révolution industrielle. Un autre de ses pasteurs, William Buckland, devenait le spécialiste mondial des coprolites, les excréments fossilisés. John Mackenzie Bacon s'initiait en ballon à la photographie aérienne. La liste des inventions est sans fin, et malheureusement, beaucoup, mal avisés, finissaient dans la dèche. Cette période à laquelle on doit de nombreuses découvertes utiles, de l'ouvre-boîte à la tapette à souris, était une époque de rêve pour les amateurs de haut niveau. L'année de la construction du presbytère était aussi celle de la Great Exhibition de Londres, une foire industrielle tenue dans Hyde Park, sous l'énorme dôme de verre du Crystal Palace, l'entreprise insensée d'un jardinier qui n'avait de sa vie bâti qu'une petite serre. Cette exposition internationale allait marquer l'arrivée des États-Unis d'Amérique dans la course au progrès. La moissonneuse-batteuse époustoufla les Européens, qui venaient aussi y découvrir les « water closets » des Anglais. Bill Bryson nous promène dans sa maison en pierre du hall d'entrée, lieu où jadis l'on vivait et dormait, à la salle à manger, évoquant au passage l'histoire de la fourchette « Pourquoi quatre dents ?», de la salière et de la poivrière. Il rappelle que les Britanniques étaient si peu habiles à cultiver le poivre sur deux îles rocheuses des Indes orientales qu'ils les ont échangées aux Néerlandais contre l'île de Manhattan. Adieu, New Amsterdam. Bill Bryson, en conteur infatigable, remonte au Moyen Âge et nous affirme, passant par la salle de bain, que pendant des centaines d'années, les gens refusaient de se laver. Les lits et les perruques grouillaient alors de vermine, et les Amérindiens s'étonnaient souvent que les Européens puassent tant. La lecture de cet ouvrage est envoûtante. Que l'on me pardonne la comparaison, mais comme Scheherazade, menacée d'être décapitée au lendemain de ses noces, avait tenu le roi de Perse pendu à ses lèvres pendant mille et une nuits, Bryson, à sa manière unique, nous offre des heures de lecture éclairantes, riches d'une érudition aussi inutile que divertissante. Assis dans un confortable fauteuil sous une lampe dégageant une douce lumière, une dalle, je pense, madame.
Sûrement. Oui, sûrement.
Dans une maison chauffée à l'électricité, vous comprendrez que nous sommes plus choyés que ne l'étaient les têtes couronnées. Alors, c'est le commentaire de Jacques Godbout sur cet ouvrage, Une histoire du monde sans sortir de chez soi. Autre texte maintenant, c'est un livre publié par Leonardo Padura, qui est cubain. Et voici le commentaire que fait la critique que fait de ce livre Martine Desjardins. Ça, c'est dans l'actualité du mois du 15 décembre. Voilà des années que les œuvres d'art pillées durant la Deuxième Guerre mondiale font l'objet de poursuites judiciaires visant à les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais les enquêtes sont longues et ardues et impliquent la reconstitution d'histoires familiales sur plusieurs générations. De quoi fournir ample matière à un roman ou même à deux, Hérétique de l'écrivain cubain Leonardo Padura suit la trace d'un portrait de Rembrandt, peint en 1642 et gardé jalousement dans les coffres d'une famille juive pendant quatre siècles. Ce tableau disparaît en 1939 pour ressurgir en 2007 dans une salle des ventes à Londres. L'héritier de la famille Kaminski soupçonne que le tableau a été volé quand ses grands-parents étaient en rade à La Havane à bord du SS Saint-Louis, le tristement célèbre paquebot qui transportait près de 1000 réfugiés juifs, lesquels se virent refuser l'entrée à Cuba, aux États-Unis et au Canada, avant d'être renvoyés en Europe où les attendaient les camps de la mort. Tout accuse un fonctionnaire de l'immigration cubaine. Les recherches entreprises pour retrouver le tableau sont l'occasion, pour Padura, de revisiter l'ancien quartier juif de La Havane et de prendre la mesure du délabrement dans lequel il est tombé depuis la Révolution. L'auteur recrée aussi, par quelques incursions dans le passé, tant l'atelier de Rembrandt et à l'Amsterdam du XVIIe siècle que les programmes perpétrés en Pologne, à la même époque où les belles heures du baseball cubain, chaque fois avec une maîtrise du clair-obscur qui donne au roman l'éclairage dramatique des toiles néerlandaises. Le récit bifurque quand une adolescente disparaît, ce qui lance l'enquête sur les traces de cette génération, née durant les années les plus dures de la crise qui a suivi le démantèlement de l'URSS. Comme tous ceux qui ont questionné l'ordre établi, ces jeunes sont pour l'auteur d'admirables hérétiques. Alors, c'est le commentaire qu'on retrouve dans l'actualité du 15 décembre de Martine Desjardins. Elle parle du livre de Padura, Hérétique.
J'aime une fois, j'aime pour toujours.
C'était René Martel qui chantait.
Ouais.
C'est sa belle voix, hein?
Ça me rappelle des souvenirs. Bon, alors on plonge dans la revue Urbania, la revue qui s'intitule Anonymat et qui est fabriquée incognito.
Incognito, comme le monsieur qui a en page couverture.
Oui, oui.
Il a un nez d'ajouter, je pense.
Oui. Ah,
bon, pas se faire connaître.
Pas trop. OK, d'accord. Alors ici, je vous mentionne des gens qui peuvent être fameux, mais qui ne sont pas connus.
Ah, ben oui.
Par exemple, il y a différents articles qui ont été écrits sur différentes personnes incognito. Robert Desjardins, portraitiste judiciaire à la retraite. Michel Ledoux, marionnettiste.
Ah ben oui, c'est anonyme pas mal.
Ah ben oui. Cathy Reaches, anthropologue judiciaire et star du polar.
Ah ben oui.
Alors elle fait des enquêtes et puis elle va écrire des livres incognito. Michel, la fille qui répond au 911.
Ah ben tiens.
Hein? Êtes-vous curieux de savoir comment ça fonctionne?
Oui, comment ça fait?
Alors, une ancienne étudiante en littérature qui tripait sur les romans policiers s'est demandé comment ce serait de répondre aux appels du 911. Elle a passé la série d'examens que ça prend pour faire le travail. Et depuis 10 ans, ça a l'air qu'elle est acceptée, c'est elle qui répond aux anonymes qui l'appellent en situation de crise. C'est un texte de Joël Bond. Répondre aux appels du 911, est-ce que c'est aussi palpitant qu'on pense? Eh bien, c'est pas comme dans les films, non. Des fois, le monde appelle pour des affaires plates, parce qu'ils savent pas où appeler. Ah bon? Que ce soit pour des services ou pour parler. Le 911 reste un des seuls numéros où tu peux être certain que c'est un humain qui te répond. Ah, c'est pas mal. Et pas une boîte vocale. Il y a du monde qui appelle juste pour parler. Dans le temps des fêtes, on a souvent des personnes âgées qui nous appellent. On a aussi des gens qui rappellent de temps en temps, qui ont besoin de jaser. Est-ce que tu développes une sorte de relation avec eux? Oui, parce que certains me racontent des trucs assez personnels, même si ça reste anonyme. Il y a des personnes suicidaires qui rappellent régulièrement. Ils sont proches de passer à l'acte. Ils ont besoin de parler. Mais on reste plus longtemps au téléphone dans ce temps-là. S'ils me demandent mon nom, je donne un numéro d'opérateur. Il y en a qui m'appellent d'un cellulaire ou d'une cabine téléphonique, alors j'ignore qui ils sont. Une cabine téléphonique, c'est donc bien rétro. Pourquoi ils appellent de là? Parce que le 911 est le seul numéro gratuit.
Ah
oui! Où est-ce que je suis rendu, moi? Bon, alors, avec le genre de choses que t'entends, j'imagine que tu dois pas être le genre de fille qui pleure devant un film d'après-midi à TVA. Ah, ben ça dépend. C'est sûr qu'il y a des choses qui viennent me chercher plus que d'autres. Et quand ça implique des gens vulnérables ou des enfants disparus, par exemple, ça m'atteint particulièrement. Sinon, des journées comme celle de la fusillade à Dawson, ça marque et on s'en souvient longtemps. Tu travaillais cette journée-là? Non, mais je pouvais bien imaginer ce que mes collègues vivaient. Tout le monde a des cellulaires maintenant, alors tout le monde appelle en même temps. Ça peut être drainant, parce que tu réponds sans arrêt et que tu reçois toute la charge émotive de cette affaire-là. Tu vis des moments super intenses avec des gens que tu connais pas, tu sais pas comment l'histoire finit, t'es pas curieuse? Oui, je le suis. Parfois, on apprend la fin aux nouvelles ou on s'informe auprès des policiers. En plus, entre nous, dans l'équipe, on a chacun notre karma. Eh bien, le gros cas, ça tombe toujours sur les mêmes personnes, on dirait. Moi, je suis chanceux, j'ai le karma tranquille. Bon, pas pire, hein? Alors, penses-tu avoir déjà été la dernière personne à qui un de ces anonymes a parlé de son vivant? Oh, ça, je peux pas le savoir. Hein, c'est intéressant, hein, le 911. Non, ça vous tente?
Est-ce qu'on, est-ce qu'on donne son nom?
Est-ce qu'on a acquis? Elle s'appelle Michel.
Michel.
Oh non,
seulement Michel. Michel. Ça peut être un numéro.
Et puis, ici, on a des anonymes célèbres. Être anonyme et famous, c'est un paradoxe que peu d'êtres humains maîtrisent avec brio. Y arriver, tout en marquant l'histoire, ça mérite une mention spéciale. Alors, Jack l'Éventreur.
Ah ben oui.
125 ans. Après ses exploits, certains cherchent toujours à connaître la véritable identité de Jack. 125 ans après, l'ex-enquêteur Trevor Marriott, dernier en lice, a affirmé en 2013 avoir la certitude que Karl Feigenbaum, un marin allemand, était le fameux tueur en Syrie. Le service d'enquête d'Urbania est aussi sur le coup. Si tout va comme prévu, nous serons bientôt en mesure de confirmer si le meurtrier est mort ou vivant. À suivre.
Mort ou vivant?
Urbania. Bon. Alors, Adolf Eichmann. Oh là là. Après la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Eichmann, officier nazi, se réfugie secrètement en Argentine avec sa famille sous le pseudonyme Ricardo Clemente. Klaus, son fils aîné, décide d'assumer son vrai patronyme. Manque de bol, il se fait une amie dont le père s'adonne à être un survivant de Dachau. C'est le début de la fin pour Eichmann. Ensuite, on parle de Youpi.
Ah oui? Est-ce qu'il est toujours anonyme, Youpi?
Dans le milieu de la mascotte, le secret professionnel, on n'y est pas avec ça, non? Denis Desaunier a attendu 26 longues années avant de révéler avoir été de 1979 à 1985, la première âme de Youpi.
Ah, je ne savais pas.
Il n'y a personne qui le savait, je pense que ce n'est pas grand monde, hein, sauf Urbania. Youpi se prostitue maintenant pour le Canadien.
Ben oui, on ne sait pas qui c'est. Là.
Alors, son costume affiche un sourire 24 heures hein, sur 24 et 7 jours par semaine. Mais on sait bien que dans l'intimité de son suit, il se passe des choses qui ne sont pas drôles. Alors, c'était Youpi. Après ça, il y a Suzanne Boyle. Je pense qu'on va achever là-dessus. Elle est... Oui. Vous la connaissez.
Suzanne Boyle, elle est connue maintenant. Elle est sortie c'est de l'anonymat. C'était un Merci. Fracas.
Alors, une brève techno, l'appli qui prie pour vous. Envie d'aller à l'église, de faire une prière? D'un simple clic, vous pouvez désormais connaître le lieu et l'heure de la prochaine messe grâce à l'application mobile du diocèse de Montréal. Lancée à la mi-octobre, elle a déjà été téléchargée plus de 1300 fois. Son but? Entrer en contact avec les fidèles, y compris les touristes, pour leur donner les dernières nouvelles et les aider, grâce au système de géolocalisation, à trouver rapidement une église. Près de 200 lieux de culte sont répertoriés avec adresse, numéro de téléphone, heure des célébrations religieuses et des adorations. Des applications semblables existent déjà ailleurs, mais celle du diocèse de Montréal a une particularité. On peut y publier des intentions de prière. Ces prières ne sont pas que virtuelles. Elles sont réellement récitées par une communauté de recluses de Montréal. Et n'oubliez pas d'éteindre votre portable avant d'entrer dans l'église.
Mmh. Eh bien, alors, ici, nous avons 131,5. C'est le nombre d'heures de pranks en caméra cachée produits par Juste pour rire en 15 ans. Sur YouTube, les gags au titre aussi funny que la dinde fugitive aux yeux de Javel, ont été vus 3 milliards 700 millions de fois. Ça veut dire que tous les habitants de la Terre en ont vu une fois d'un seul œil. Bizarre. 30 jours. C'est un délai pour réclamer ça, je pense qu'il n'y a personne qui savait ça. Délai pour réclamer une dépouille au Québec avant qu'elle ne soit offerte à la science ou inhumée dans une fosse commune. Le nombre de dépouilles non réclamées a augmenté de près de 28 % au Québec entre 2008 et 2010.
Un autre chiffre, 35 centimes par litre. Uh-huh. C'est la taxe qu'imposera à compter du 1er janvier la ville de Berkeley aux distributeurs de boissons sucrées, thé, café glacé, boissons gazeuses ou énergisantes, pour chaque litre vendu dans son territoire. Cette ville de Californie devient la première aux États-Unis à adopter une telle taxe dont les recettes, estimées entre 1 et 2 millions de dollars annuellement, serviront à lutter contre l'embonpoint, fléau qui touche 40% des adolescents de la municipalité.
Eh ben, 1, c'est le nombre d'apparitions initialement prévues pour le personnage de Robin aux côtés du super-héros masqué Batman.
Ouais.
C'était juste un... L'éditeur Jack Leibowitz était contre. Après avoir doublé ses ventes grâce à son numéro, Robin est resté. Stella le cherche depuis ce temps-là.
Bon, alors, c'était le kiosque magazine du 15 décembre. Ben oui, Franceline Nuvia. Bon, je vais finir par y arriver.
Ouais, il reste quelques jours avant la fin de l'année. Ouais, ouais.
Serge Hamelin et en support, en appui, Sophie, qui nous a accompagnés pendant cette heure, ici Roger Roy. Et nous tous, nous vous disons au revoir et à la prochaine.
Et de joyeuses fêtes.
Oui.